Donc, en ce jeudi 9 octobre, on reçoit Jean-Michel, notre professeur de physique. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour les filles, ça va bien?
Oui, de vous?
Oui, ça va bien.
Dans le fond, on va te poser une question. Bon, là, ça va être plus axé sur la physique, puisqu'évidemment, on est les deux en éducation spécialisée. Là, fait que clairement, la physique n'est pas de notre ressort. Mais moi, je l'ai faite en secondaire 5. Mm-hmm. Fait que je m'en suis à peu près bien sortie, mais c'est ça.
Puis, moi, j'en ai jamais fait, mais je suis prête à savoir, apprendre de nouvelles connaissances et apprendre sur le sujet.
OK, donc, parfait, parfait.
Fait que là, dans le fond, on va commencer comme avec la base là, de la place, le fameux la place de la physique dans la vie normale. Là. Je sais qu'elle est un peu partout, là, mais genre, où plus précisément, mettons, qu'on peut voir la physique?
La physique, c'est un domaine des sciences qui est très vaste et on vit la physique dans notre quotidien. En ce moment, on est assis sur des chaises ici. Juste la gravité de la planète Terre nous attire vers le sol, ce qui fait qu'on sent une certaine pression, admettons, sur nos fesses, sur la chaise. Si on mettait nos doigts en dessous des pattes de la chaise, ça nous ferait aïe aïe. Bien, ça, c'est de la physique mécanique. Ce sont des forces qui agissent sur un système qui est moi, mettons, ou vous autres, qui êtes des masses. Pour la physique, là, vous êtes des masses. Vous êtes une quantité de matière. La physique ne va pas traiter nécessairement du vivant en tant que tel. Ça, c'est plus le domaine de la biologie. Mais pour la physique, vous êtes des masses. Là, on serait dans le champ gravitationnel de la Terre. En ce moment, il y a des micros qui nous enregistrent.
Ouais.
Ah, là, on est dans le domaine de l'électricité. Dans les micros, il y a des petites membranes qui vont vibrer. Et ça, ça va générer des courants qu'on va transformer à travers des fils électriques qui sont conducteurs et ça va être enregistré par l'ordinateur. Il y a aussi des lumières au-dessus de nous autres qui nous éclairent. Comment est-ce que ça se fait que les lumières nous éclairent? Bien, c'est de l'énergie électrique qui va passer à travers des ampoules. Il y en a plein de types différents, mais qui vont émettre de la lumière. On regarde dehors, il fait beau soleil aujourd'hui.
Oui.
Ah! Le soleil. Qu'est-ce qui fait que le soleil éclaire autant? Bien, c'est qu'il y a des forces à l'intérieur du soleil, qu'on appelle les forces nucléaires. Il y a des atomes qui vont être fusionnés, donc collés ensemble les uns avec les autres, pour faire des plus gros atomes, mais ce processus-là dégage d'énergie. Ça aussi, c'est de la physique. Ce qui fait que à brûle pour point, là, c'est des exemples de comment est-ce que la physique, elle est là dans la vie de tous les jours. On s'en rend pas compte parce que c'est notre quotidien, mais c'est toujours, toujours là. Oui.
Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs sphères dans la physique. Là, tu as parlé de mécanique, d'électricité, puis de d'autres sphères. Mais si j'allais sur... si je continuais sur, dans le sens que... en quoi il y a de la physique dans un auto? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer?
Une voiture, oui, absolument. Une voiture, c'est plein de physique. Il y a de la physique électricité, mais il y a aussi de la mécanique. Mais tu as raison. Juste pour reprendre la question, ta question à partir du début, la physique, ça se divise vraiment en différentes parties. Puis on a juste à regarder au collégial le programme de sciences de la nature. Les cours obligatoires en physique, le premier, c'est physique mécanique. Ensuite, physique, électricité, magnétisme. Ensuite, ondes et physique moderne. Et puis, il y a même un cours à option que je donne qui s'appelle dynamique planétaire et stellaire. J'y reviendrai tantôt. Donc, si on revient à l'exemple de la voiture, une voiture, admettons, pour démarrer et avancer à partir d'une vitesse de zéro. Alors, on a juste à penser aux pneus. Il faut que les pneus aient une friction avec le sol. Parce que s'il n'y avait pas de friction, la voiture ne serait jamais capable de se donner un élan vers l'avant. Donc ça, c'est un exemple. Quand on freine, c'est encore la friction qui fait en sorte que, oups, on va être capable de ralentir et de s'arrêter. Aussi, s'il y a une courbe, c'est la friction, mais là, c'est la friction de côté des pneus qui va faire en sorte que, au lieu de continuer en ligne droite, on va prendre la courbe, admettons, avec la voiture. On pourrait aussi aller plus... Il faut ouvrir le capot de la voiture, puis là, on voit un moteur. On peut se dire, c'est quoi cette affaire-là? C'est comme une boîte en aluminium avec des fils un petit peu de partout, mais on ne comprend pas nécessairement tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Mais à l'intérieur de ça, il y a certains volumes vides dans lesquels on va envoyer de l'air et de l'essence, puis on va mettre le feu là-dedans. Là, on est plus dans la chimie. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va faire une explosion qui va faire bouger des pièces, puis en fonction de la taille des pièces, ça va donner des forces qui vont permettre à ta voiture d'avancer. Donc, il y a de la physique dans une voiture, il y en a plein. Là, c'est le soir, tu veux voir en avant. Ah, bien là, il y a des parties de ton moteur de voiture qui vont faire tourner un autre bidule qu'on appelle un alternateur qui, lui, produit de l'électricité. Cette électricité-là va s'en aller dans les fils électriques, va faire allumer tes phares de voiture, peut faire fonctionner la radio de ta voiture. Oups, ah, c'est plus humide, il fait frais, ma vitre en arrière, elle est gelée, je vais mettre le dégivreur de la vitre en arrière. Les essuie-glaces, ça fonctionne avec des moteurs électriques, donc ça prend l'électricité pour faire fonctionner ça. Donc, une voiture, là, c'est rempli de systèmes physiques, beaucoup de la mécanique et beaucoup de l'électricité et magnétisme qui font un système assez compliqué quand même, mais que tout ça fonctionne, on espère, le mieux possible. Il y a des compagnies qui font des voitures un peu plus fiables que d'autres. Puis ça se branche Wi-Fi, mettons, une voiture plus récente, là, tu sais, ça se branche Bluetooth. Oui. Oups, je vois tous mes contacts sur l'écran, je peux cliquer dessus. Ça, là, c'est un signal électromagnétique. C'est des ondes qui se déplacent dans l'air. On n'est pas capable de les voir avec nos yeux, mais elles sont bien là parce que la voiture communique avec mon téléphone. Ce qui fait que quand je vous dis, une voiture, tu as vraiment pris un super exemple. C'est fou la quantité de physique qui est dans une voiture.
Puis j'ai su tantôt dans le corridor en ayant une discussion avec un autre prof hein, que tu avais amené, fait une expérience dehors avec tes étudiants dans le parking avec un char.
Oui, parce que je vais vous donner un exemple super concret. Juste quand, admettons, bientôt, là, ça va être le temps d'installer nos pneus d'hiver.
Oui.
Quand on change les pneus, les mécaniciens, ils vont enlever la roue, ils vont enlever le pneu de sur la roue, là, la partie en métal, là, souvent on appelle ça des mags, là, parce qu'ils sont en magnésium, c'est un mélange de magnésium puis d'aluminium. Et puis là, il peut enlever les pneus avec une machine spéciale puis mettre les pneus d'hiver dessus. Mais après, quand on met quand on remet la roue en place, là, il va avoir 4, 5 ou 6 écrous pour visser ça en place. Avec quelle force on doit les visser, ces écrous-là? Bien, tout ça, là, ça se calcule, tout ça, ça se mesure. Si on les visse trop fort, là, c'est dangereux de les casser. Ou si on a une crevaison sur le bord de la rue, puis là, on est un peu mal pris, il faut mettre le pneu de secours. Si c'est tellement été vissé fort dans le garage qu'on n'est même pas capable de les défaire, c'est pas mieux. Mais si le mécanicien ne les a pas vissés assez fort, puis que l'on roule, puis tout d'un coup, on perd une roue, on n'est pas plus avancé. Ça s'appelle le couple de serrage. Donc, il y a un bon couple qui vient, qui est de compagnie. Hein, les ingénieurs de la compagnie disent, OK, pour cette voiture-là, ça prend tel couple de serrage. Donc, ça faisait partie des choses que j'étudiais, mais que je montrais à mes étudiants dans le stationnement. Un autre exemple, c'est peut-être même que ça vous est déjà arrivé. Des fois, l'hiver, il y a une tempête, puis là, il va y avoir un ourlet de gratte à quelque part. Tu dis, ça va passer. Là, tu te donnes un élan, pouf, tu passes là-dedans avec ta voiture. Puis à un moment donné, tu trouves que ta voiture vibre. Bien, ça peut arriver que s'accumule la neige dans tes roues à certains endroits, mais pas à d'autres. Ça va débalancer ta roue. Puis là, à un moment donné, tu conduis, puis tu sens qu'on dirait que le volant, il va vibrer, tu sais. Bien, c'est parce que là, maintenant, ta roue est plus balancée, parce qu'il y a trop de masse d'un côté par rapport à un autre côté. Ça fait que soit que tu enlèves la glace avec un outil, ou soit que tu t'en vas dans un garage au chaud, puis tu attends que ça fonde, puis là, ta voiture, elle va être correcte. Sauf que le mécanicien, quand il a installé le pneu sur ta jante, il a mis la roue dans une machine qui l'a fait tourner vite, et qui regarde si elle est bien balancée, ta roue. Puis là, si la machine mesure une petite vibration, il dit « Ah, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Puis là, il va coller des petits poids en plomb à l'intérieur de la jante de manière à bien balancer ta roue. Après ça, il l'installe sur ta voiture. Puis toi, quand tu conduis, il n'y a plus de vibration. Ce qui fait que c'est aussi ça que je montrais aux étudiants. On les voit super bien là, sur n'importe quelle voiture. On voit des petites masques qui sont collées à l'intérieur. Là. Ça sert à ce qu'on ait une belle conduite qui n'a pas de vibration. Donc ça aussi, c'est de la physique.
Wow, pour vrai, c'est un bel exemple pratique, puis surtout, on apprend plein de choses avec ça. Ça fait que les théories, on les apprend en pratique.
Oui. Puis, j'essaie toujours le plus possible de ramener ce qu'on voit en théorie en classe à des choses qui sont concrètes pour les étudiants. Comme ça, ils savent à quoi ça sert. Parce que en sciences de nature, j'ai des étudiants qui, oui, vont continuer vers, admettons, la physique ou l'ingénierie rendue à l'université, mais la plupart, ils vont choisir d'autres sujets. Ils peuvent aller en médecine, peuvent aller en physiothérapie, peuvent aller en en biologie, ils vont moins toucher à ça, mais moi je me dis que si au moins de leur science de nature, ils ont retenu des exemples concrets comme ça de la vie de tous les jours, ben je vais avoir fait comme il faut une partie de mon travail.
Puis dans vos expériences que vous faites, là, des fois vous allez dehors, vous allez sur le terrain, mais c'est quoi genre les exemples d'expériences que vous pouvez faire dans le labo en bas?
J'essaie toujours de faire des expérimentations qui vont vraiment avec la matière qu'on voit en classe. Par exemple, en physique mécanique. Puis là, quand on pense physique mécanique, faut pas penser nécessairement à mécanique automobile dans un garage. La physique mécanique, c'est un domaine de la physique qui étudie les forces, les énergies, les transferts de mouvement. Une expérience classique, c'est qu'on a un plan incliné avec un chariot sur des roulettes. Mais il peut être lié avec une corde jusqu'à une poulie en haut du plan incliné. Puis là, on va attacher une masse. Alors, le mouvement qu'on est supposé avoir, ça se calcule tout. Mais après, je demande aux étudiants en laboratoire, vérifiez que ça donne vraiment ce que moi, je vous ai montré en classe. Donc là, ils ont des capteurs qui sont capables de mesurer la vitesse du chariot au fur et à mesure qu'il se déplace. Et alors là, ils vont voir si l'accélération correspond à ce qui est prévu par la théorie, si oui, sinon, aussi... évaluer des pourcentages d'écart par rapport à la théorie. OK, la théorie dit que c'est supposé de faire tant. Toi, tu obtiens quoi comme résultat? Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'écart? Souvent, il y a de la friction, puis quand on ne tient pas compte de la friction, souvent, ça va faire que nos résultats ne sont pas tout à fait comme ce qui est prévu par la théorie. Ça veut aussi dire qu'on a mal calculé la théorie, on a peut-être négligé certaines choses. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, admettons, dans le cours ondes et physique moderne, on peut envoyer la lumière d'un laser dans une toute petite ouverture, on appelle ça une fente. Et puis, quand on vient placer une feuille blanche un peu plus loin, on se rend compte que ça ne fait pas un petit point. Ça fait plein de petits points. Ça, c'est un phénomène qui s'appelle la diffraction. Et là, on va étudier ça. Est-ce que les petits points qu'on observe, ça correspond à ce qui est prévu par la théorie? Si oui, c'est quoi notre pourcentage d'écart par rapport à la valeur théorique? Ça, c'est un autre exemple. Un autre exemple que je pourrais donner, admettons, en électricité et magnétisme, parce que dans notre vie de tous les jours, on ne le voit pas, là, mais dans vos téléphones cellulaires, dans les micros en ce moment, dans l'ordinateur qui est à chaque côté de nous, c'est plein de mini circuits avec tous des petits fils conducteurs. Ils sont tellement petits qu'ils sont même imprimés sur des plaques, on appelle ça des circuits imprimés. Là-dedans, il y a toutes sortes de petites composantes électroniques, des résistances, des condensateurs, des choses comme ça. Alors, en théorie, en classe, on apprend comment faire les calculs des courants, ça prend combien de temps avec un condensateur se charge, tout ça. Mais après ça, en lab, on le fait avec des vraies résistances, des vrais fils, des vrais condensateurs, des vraies sources de courant, puis on regarde si les résultats correspondent à ce que je montre en théorie. Ce qui fait que j'essaie toujours de faire le parallèle entre la théorie et la pratique pour que, justement, les étudiants puissent vérifier que ça fonctionne vraiment, qu'est-ce que je raconte en théorie, en classe.
Tu me fais passer une anecdote. Là. Écoute, j'étais en concentration sciences, okay, quand j'étais en secondaire 1 et 2. Puis, en secondaire 1, on est allé à Québec visiter un bunker. Puis là, dans le bunker, sous terre, là, on l'avait vraiment fermé puis tout. Puis les radios, ils marchaient par laser, comme tu disais. Fait que là, mettons, il y avait une laser qui partait, puis qui allait comme direct, c'était au plafond, là.
Oui.
Puis qui allait directement sur l'autre système de son ou whatever. Puis la personne qui nous faisait visiter le patente, elle avait mis une feuille entre pour couper le laser. Là,
puis là, il n'y avait plus aucun son.
Il n'y avait aucun son, c'était devenu full silencieux. Puis là, genre, elle rebaissait la feuille, puis là, ça recommençait comme si de rien n'était, genre.
Bien, la lumière peut vraiment véhiculer de l'information. La meilleure preuve de ça, je sais pas comment est-ce que votre Internet est installé chez vous, mais l'Internet par fibre optique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des petits tuyaux de verre. Ce sont des fibres de verre, de la vitre, mais qui est tellement mince que ça va quand même plier. Et ça transmet la lumière. Mais la lumière, nous, on va dire, OK, c'est un rayon rouge, admettons. Mais la lumière peut contenir une quantité hallucinante d'informations, puis toute notre Internet fonctionne avec ça, notre télé. Donc, autrefois, ça passait par des électrons dans des fils métalliques. Mais maintenant, c'est beaucoup, beaucoup la lumière qui est utilisée pour transmettre du signal comme ça, puis pour qu'on puisse avoir, admettons, Internet, puis la télé à la maison. Ce qui fait que ce que tu dis, là, c'est le même principe. On pourrait faire voyager un laser dans l'air, admettons, puis là, l'information peut être transmise. Mais ça, c'est moins bon sur des longues distances.
Ouais.
Tandis que si tu as un câble comme ça qui passe, peu importe la météo qu'il fait dehors, lui, il est à l'intérieur d'une gaine qui va le protéger, puis on va transmettre des signaux de cette manière-là.
OK. Puis, pour en revenir aux expériences que vous faites en bas, là,
oui.
Ben dehors aussi, peu importe, mais c'est quoi la préparation? Ça prend-tu vraiment beaucoup de préparation pour préparer une expérience que tu veux faire à tes élèves ou c'est pas si pire que ça?
Ben c'est certain que les premières fois où on pense à une expérience, on l'essaie pour voir si ça fonctionne, pour détecter s'il y a oups, OK, cet instrument-là, ça marche pas bien pour mesurer telle chose. OK, on avait pensé faire ça de telle manière, ça va quand même pas si mal, mais on pourrait améliorer tel autre détail, puis là, à ce moment-là, ça fonctionnerait probablement mieux. Donc, on va vraiment peaufiner, j'ai envie de dire, une expérience, moi, puis typiquement Sylvain, le technicien. Puis une fois que l'expérience, on sait que ça fonctionne suffisamment bien, là, il faut que j'écrive le protocole. Donc, qu'est-ce que les étudiants vont avoir comme instruction pour faire cette expérimentation-là, mais tout en leur laissant aussi de l'attitude. Moi, j'aime pas ça quand c'est juste une recette. Fais ci, fais ça. Moi, j'aime ça quand les étudiants, il faut qu'ils réfléchissent un petit peu aussi. Puis, ben, à la suite de ça, ben, moi, ce que je fais, c'est que je prépare comme des modèles de tableaux dans Excel pour que les étudiants puissent consigner tous leurs résultats expérimentaux. Puis ensuite, on va pouvoir interpréter ces résultats-là puis se demander est-ce que oui ou non, ça correspond à la théorie.
Puis ont-tu plusieurs chances dans leur calcul? Genre, ils peuvent-tu refaire leur expérience ou
oui.
C'est genre une fois?
Ouais.
Puis,
Non, souvent, je te dirais même là, qu'il y a une expérience en physique mécanique qui font 400 fois dans un même lab.
OK.
Parce que dans cette expérimentation-là, c'est une expérience qui est vraiment facile à reproduire souvent, mais en la faisant 400 fois, on obtient 400 résultats. Mais ils peuvent même faire des statistiques avec ça, ce qui fait qu'ils ramènent leurs résultats dans les cours de maths et là, ils vont regarder si ça obéit à la loi normale, puis si on peut faire d'autres calculs avec ça, ce qui fait qu'on fait même de l'approche programme de cette manière-là parce qu'on s'entend, la physique puis les maths, ça va vraiment, vraiment bien ensemble.
Ben oui, puis donc c'est utile comme vous dites. Puis j'aurais une autre question.
Mm-hmm.
Dans le fond, les expériences dans un même ordre d'idée, est-ce que vous pensez aux expériences comme ça ou...
Ben, vu que tu me poses la question de cette manière-là, je vais t'expliquer comme il faut comment ça se passe. Nous, le ministère de l'enseignement supérieur fournit aux professeurs de physique du collégial un genre de canevas qui dit en gros les thématiques qu'il faut qu'ils soient vues dans un cours donné. On appelle ça un plan cadre. Okay? À partir du plan cadre, moi, je vais chercher un livre de physique qui va avoir les contenus qui vont avec le plan cadre. Et aussi, je vais écrire mon plan de cours en décidant de tous les contenus un peu plus en détail. Comment est-ce que je vais les voir? Puis aussi, quel lab qui vont aller avec ça? Alors là, c'est à moi de décider qu'est-ce que c'est les laboratoires que je vais faire. Le ministère de l'Éducation, il ne me dit pas « faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci pour les laboratoires ». Il me laisse la latitude, mais il me dit « faut quand… » Mais tu sais, c'est sûr que dans un cours de mécanique, il va me dire « il faut que tu permettes aux étudiants de vérifier expérimentalement des lois et des principes liés à la physique mécanique ». Mais après ça, quelle expérience on fait exactement? Ça se peut que ça soit quand même assez différent ici, admettons, que dans un autre cégep, mais le fond va toujours rester le même. Mais ça se peut que le matériel soit un petit peu différent, les manipulations soient un petit peu différentes.
Puis en restant dans le même ordre d'idée, là, mettons, ton top 3 là, de tes expériences préférées que tu aimes faire puis que tu aimes présenter là, puis enseigner, ça serait quoi?
J'aime beaucoup en physique mécanique l'expérimentation où on fait les fameux 400 essais dont je vous parlais tantôt. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un chariot qui descend sur un plan incliné. Le chariot, il y a des roues, il y a une masse, chaque roue a une masse, chaque roue a une taille. Ce qui fait qu'on vient placer le chariot en haut du plan incliné au début, puis là, on calcule à quelle vitesse il devrait aller rendu en bas du plan incliné. Mais en fonction de la masse des roues, de la masse du chariot, tout ça, on rentre tout ça dans les paramètres, puis les étudiants font tout ça dans Excel. Là, après ça, il laisse aller le chariot, puis on a un appareil qui mesure sa vitesse rendue au bas du plan incliné. Et puis là, on fait cette expérience-là 400 fois. Ça fait vraiment, ça brasse dans le laboratoire quand on fait ça. Moi, ce que je trouve le fun avec ça, c'est que non seulement on est capable de faire tous les calculs de physique qui prévoient ce qui est supposé se passer, mais en plus, on ramène ça dans les cours de maths puis on étudie toutes les statistiques qui vont avec ça parce que la loi normale, là, ça ressemble à une genre de cloche là, qu'on appelle. Là. C'est que la plupart des résultats, ils sont supposés de donner une certaine valeur. Mais après ça, plus on va s'écarter de cette partie-là centrale, moins on va en avoir de ces résultats-là. Donc, moi, le fait qu'on soit capable de faire l'expérimentation en physique, mais qu'après on ramène ça en maths, ça, je trouve ça le fun. Une autre expérimentation qui me viendrait à l'esprit, les étudiants en deuxième année l'ont fait la semaine dernière, c'est la charge et décharge d'un condensateur. Quand on charge un condensateur, la loi théorique qui permet de calculer c'est quoi sa charge en fonction du temps, c'est quand même relativement compliqué. Mais quand on le fait au lab, on se rend compte que ça fonctionne. C'est écœurant comment est-ce que ça fonctionne. Ce qui fait que là, les étudiants, moi, je leur fais tout préparer leur fichier Excel d'avance. Quand ils arrivent au lab, ils procèdent à l'expérimentation et ils écrivent leurs résultats au fur et à mesure que ça avance. Parce qu'il faut qu'ils prennent les résultats à toutes les 5 secondes. Toc! Puis là, okay. Ils vont vite sur l'ordinateur. Mais ils voient le graphique qui se trace au fur et à mesure de leur expérimentation. Et là, ils voient si leur courbe suit la courbe théorique qu'ils avaient déjà calculée avant d'arriver au laboratoire. Puis là, c'est trippant parce que tu vois, là, ça suit la courbe. Tu te dis, ben voyons donc, ça marche cette affaire-là. C'est fait que okay. Des fois, il y a des choses là, que en classe, ça a l'air un petit peu... Oh, tu te dis, ouf, c'est compliqué cette affaire-là, mais tu le fais au lab. Puis quand ça fonctionne super bien, moi, ça, j'aime bien ça. Donc, l'expérimentation des condensateurs, je la trouve intéressante. Une autre expérimentation dans le cours ondes et physique moderne. Toi, tu aimes bien jouer de la musique.
Oui.
Des cordes de guitare, admettons. Qu'est-ce qui fait qu'une corde de guitare, quand on va donner un petit coup dessus avec un pic, ça va faire tel son? Oups! Là, on met notre doigt à un autre endroit sur le manche, ce qui fait que c'est comme si la longueur de la corde devenait un peu plus courte parce que là, on est venu placer notre doigt à un certain endroit. Oups! Ça fait un autre son. Bien, tout ça, ça se calcule aussi en fonction de la grosseur de la corde, en fonction de la tension qu'il y a dans la corde et puis en fonction de la longueur. Puis ça, bien, c'est là où on vient placer notre doigt. Puis là, on peut même étirer un peu la corde avec notre doigt puis ça va faire un... Bien là, oups, on vient de changer la tension. Ça va donc changer le son. Donc, des expérimentations avec des cordes, on fait ça aussi en laboratoire. On regarde en faisant vibrer des cordes à une certaine fréquence de quelle manière les cordes vont se comporter. Puis là, nous autres, on a un stroboscope qui fait des flashs lumineux. Puis quand on ajuste la fréquence des flashs pour que les flashs se fassent toujours exactement au bon moment, ça nous donne l'impression que la corde ne bouge même plus, alors qu'elle est en train de vibrer super vite. Ça, c'est des expérimentations que les étudiants trouvent pas mal cool aussi.
Ouais, ça doit être le fun, effectivement. Ouais. Puis c'est-tu le même principe quand on accorde, mettons, un saxophone ou un instrument avant? Tu sais, parce que pour accorder un instrument avant, tu tournes pas une clé. Là, c'est plus, tu sais, faut que tu allonges ou que tu rapetisses le tuyau, tout dépendant si t'es trop haut ou trop bas.
Oui.
Mais c'est-tu le même principe?
C'est exactement le même principe. En fait, là, les instruments de musique avant, ils ont tous des longueurs caractéristiques à chacun. Mm-hmm. Puis les longueurs vont être multiples les unes des autres. Pour que quand, admettons, une flûte va faire telle note, bien, il va falloir, admettons, qu'un basson, quand il fait la même note, ça peut être un octave plus bas, admettons, mais à l'oreille, ça va quand même bien sonner. Mais tout ça, là, il y a des maths à côté là-dedans, il y a de la physique à côté là-dedans. Il n'y a personne qui a fait tout ça au hasard. Alors, la distance entre toutes les petites trappes, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, pour fermer ou ouvrir les tuyaux, admettons, sur un saxophone ou sur une flûte traversière, toutes ces positions-là, là, c'est pas quelqu'un qui s'est dit « Ah, je vais mettre ça comme ça ». Non, non, non. C'est tout calculé. Ils sont vraiment des positions bien particulières pour faire les bonnes notes. Puis, aussi, pourquoi tantôt tu disais « Il faut que j'allonge ou que je réduise la longueur de mon instrument ». Je sais parce que ma fille elle faisait partie de l'harmonie à l'école. Puis, quand elle ajustait sa flûte traversière, là, il fallait toujours qu'elle allonge ou qu'elle réduise. C'est que ça dépend de la température de l'air.
Aussi, oui.
Ça dépend de la température. Si c'est plus frais, ça va avoir certaines incidences sur le son. Si c'est plus chaud, ça va avoir certaines autres incidences. Ce qui fait que si on veut jouer avec plusieurs autres instruments, admettons des violons, si on veut jouer avec des violoncelles, ainsi de suite, Ben, il faut que tout le monde s'assure que quand on fait, admettons, un « la », ben que c'est le même « la » pour tout le monde. Donc là, ceux qui ont des instruments avant vont jouer un petit peu avec la longueur de leur instrument, avec cet ajustement-là. Ceux qui ont des instruments à cordes, eux, ils vont jouer telle note. Puis une fois que ça sonne bien, ah, tout le monde est accordé, parfait, on est prêt à faire le spectacle.
Tu sais, souvent, quand on faisait des concerts avec les grands ensembles à Saint-Aubin, là, à l'école secondaire du Saint-Paul, ben tu sais, c'est ça... On faisait une partie du concert, puis on avait tout le temps un petit entraque là, de 10-15 minutes, là, puis après chaque entraque, on se réaccordait. Mm-hmm. Puisque, tu sais, on était comme 60. Fait que là, 60 personnes qui font la même note, mais qui sont toutes désaccordées à cause que l'instrument, il est plus chaud que quand on avait commencé, ben ça sonne plus bien. Fait qu'on prenait tout le temps de se réaccorder à chaque entraque, à chaque fois qu'on revient. Oui. Je le fais au sismique aussi.
Oui.
Mais non, mais c'est sûr, là, tu sais, il y a de la préparation dans ça, puis aussi, il faut s'ajuster, parce que, tu sais, sinon, ça sonne pas toujours bien.
Non. Non, effectivement, les instruments... oui, la température ambiante, c'est une chose, mais t'as raison. Admettons, ton instrument, admettons un saxophone, quand il devient plus chaud, oups, ça change un petit peu des choses, parce que là, ça fait un bon bout de temps que t'es en train de souffler à l'intérieur. Si l'humidité change, tu peux avoir une guitare, admettons, oups, le bois, il va travailler un petit peu. Hop, ça joue un petit peu sur la tension dans les cordes. Moi, je suis un gros amateur de heavy metal, puis quand je vais voir des shows, là, c'est fréquent qu'on voit que les musiciens, là, entre deux chansons, là, ils pèsent sur un bouton avec leur pied, puis là, ils regardent un petit compteur, là, puis ils vont réaccorder, ils vont s'assurer que chaque corde là, a exactement le bon son, puis là, ils réappuient sur leur bouton, puis là, ils sont prêts pour la prochaine chanson.
C'est parce qu'il pèse sa pédale parce que ça enlève le son du stage.
Ouais, c'est ça. Ils veulent pas qu'on les entende s'accorder.
Non, c'est ça.
Non, t'as raison. Ouais, c'est ça.
Mais non, c'est cool, c'est un lien entre les deux, là.
Ben, en fait, la musique, les instruments, c'est vraiment, vraiment de la physique et c'est aussi des mathématiques parce que chaque note a une certaine fréquence et si tu combines pas les bonnes notes ensemble, ben ça va mal sonner à l'oreille. Puis si tu combines les bonnes notes ensemble, ben là après toute la créativité peut être là puis ça peut mener à des mélodies qui sont extraordinaires.
OK. Puis pourquoi, dans le fond, pourquoi choisir la physique comme profession d'enseignement ici au Cégep?
Ça, je te dirais que quand moi j'ai commencé la physique à l'université, je ne savais pas que j'allais être professeur, honnêtement. Je suis allé en physique parce que c'était une matière qui m'intéressait. J'étais curieux. Je voulais savoir comment fonctionnaient les choses. J'ai appris comment fonctionnent beaucoup de choses, puis encore plein de choses que je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que je ne peux pas tout savoir non plus. Mais c'est plus tard que je me suis rendu compte que peut-être que je pourrais maintenant l'enseigner. J'étais rendu en troisième année d'université quand j'ai su que je pourrais devenir professeur. C'est arrivé parce que il y a un prof que moi j'avais qui devait donner un cours d'appoint pour des étudiants qui avaient une technique au cégep, mais qui voulaient rentrer en ingénierie à l'université. Normalement, tu passes par les sciences de nature pour rentrer en ingénierie. Mais eux, il y avait une technique. Ce qui fait qu'il fallait qu'ils fassent comme des cours de rattrapage, si on veut, de physique mécanique, de physique électricité magnétisme, de ondes optiques et physique moderne. Il fallait comme qu'ils fassent ces cours-là rendus à l'université, mais qui étaient quand même des cours collégiaux. Puis là, le prof, il avait demandé, y a-t-il un étudiant dans le groupe qui serait prêt à venir faire des séances de travaux pratiques aux étudiants, des séances d'exercice, que je devrais dire plutôt. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a passé par la tête, j'ai levé ma main. J'ai probablement été le plus vite à lever ma main. Je me suis retrouvé dans une classe avec, c'était surtout des gars qui avaient fait leur technique et je devais avoir un an ou deux de plus vieux qu'eux autres, puis à leur faire faire des exercices de physique, puis à expliquer au tableau, puis tout ça. Puis, ben, je me rendais compte que j'appréciais faire ça, et deux, que eux trouvaient que je faisais bien ça. Donc, tout ça a fait en sorte que je me suis dit, hein, peut-être que je pourrais devenir prof. J'avais jamais vraiment pensé à ça. Plus tard, je me suis inscrit à la maîtrise, mais après une année de maîtrise, comme je dis, je savais que je voulais devenir prof maintenant. J'avais appliqué dans des cégeps, même s'ils ne demandaient pas de personnes en physique à ce moment-là. Je me suis dit, ils auront mon CV si jamais ils ont besoin pour du remplacement ou quelque chose. Puis finalement, c'est ici, au Centre d'études collégiales en Charlevoix, qu'ils m'ont appelé. Puis j'ai été pris tout de suite. mais pour, comme prof, pour pas juste pour remplacer, mais pour vrai. Ce qui fait que moi, ça a vraiment changé ma vie du jour au lendemain. J'étais à la maîtrise, c'était l'été, c'était au mois d'août, et puis j'avais appliqué, il m'appelle ici, puis c'est, le jeudi, je fais l'entrevue, le lundi, je commençais à enseigner.
Okay.
Puis je suis jamais reparti depuis ce temps-là. Et ça, c'est à l'automne 1999. Là. Ça fait un bout de temps. Vous étiez pas tellement grande, vous autres, les filles,
mon
à ce moment-là.
Mon frère venait de naître. Ouais.
Donc, okay, bon, ouais. Donc, tout ça pour dire que, ouais, je suis devenu prof comme ça parce que j'ai eu l'occasion de toucher un petit peu à l'enseignement puis me rendre compte que j'aimais ça. Et puis, je me suis dit, ben voilà, voici ce que je vais faire plus tard.
Puis, t'avais-tu un but en allant en physique avant de voir non. que tu voulais être prof?
Non, ah, ben juste... ouais, oui. Je te dirais que j'avais un but avant d'aller en physique. Parce que je suis pas passé de sciences de nature à physique tout de suite. J'étais allé en génie mécanique à l'École polytechnique de Montréal. Et mon but, je voulais construire des sondes spatiales qu'on allait envoyer sur Mars. C'était ça que je voulais faire.
Okay.
Depuis que je suis tout petit, je construisais des vaisseaux spatiaux en bloc Lego puis des petits rovers là, qui auraient pu marcher dans des roches, là, admettons, sur la Lune ou sur Mars. Moi, je trippais à faire ça. Peut-être que je vais avoir l'air bizarre, là, mais moi, je trippais à faire ça. Alors, je me disais, j'aimerais ça faire ça plus tard. Puis j'étais allé à l'université au départ dans le but de faire ça, mais rendu à l'Université du Québec, à l'École polytechnique de Montréal, je me suis rendu compte que c'était vraiment ceux qui avaient les ultra grosses notes qui pouvaient aller faire ça plus tard. Puis je t'avoue que ça m'avait un petit peu découragé, en plus du fait que j'avais peut-être trouvé mon adaptation à Montréal un peu difficile, ce qui fait que finalement, j'ai décidé de laisser tomber ça, puis je suis revenu dans mon Saguenay natal, et puis je me suis inscrit en physique, puis finalement, ben voilà, là ça a fonctionné.
Oh mon Dieu, tu t'entendrais bien avec mon père. Mon père aussi, ben lui, il faisait de la télécommunication.
OK.
Puis dans le fond, c'est ça, il faisait les satellites pour... des affaires sur les satellites pour envoyer dans l'espace.
Ah oui, bon, ben tu vois, c'est ça. Ouais. C'est le genre de choses qui m'auraient vraiment, vraiment intéressé. J'ai rencontré, il y a peut-être 2 ans, Farah Alibé, qui travaille pour la NASA, qui est une femme de Montréal. Et puis... elle a travaillé sur le rover qui est sur Mars en ce moment.
Oh wow.
Et pour moi, là, c'était une carrière de rêve. Là, faire qu'est-ce qu'elle a fait, là, c'était vraiment très cool.
C'est sûr, là, tu sais, envoyer des prototypes sur Mars.
Oui. Tu construis des machines ici, mais tu sais que tout ce qu'il faut que tu penses pour que rendu là-bas, il n'y a pas personne là, qui peut aller la déprendre si elle est prise ou si l'appareil pour mesurer telle chose fonctionne mal. Il faut tellement que tu penses à des choses pour que ce soit le plus fiable possible, pour que ça se fasse brasser dans une fusée, que ça s'en aille dans l'espace pendant des mois, que ça soit en stand-by pendant des mois, mais que, oups, là, tout d'un coup, il faut aller déposer ça à la surface de Mars sans que tout se débâtisse, puis que rendu là-bas, ça fonctionne, puis ça fasse toutes tes analyses, puis que ça te renvoie les résultats des analyses sur Terre. Hey, wow, chapeau. Ça, c'est de la machine, oui.
Ça se voit dans ta face quand t'en parles, que c'est rêve de...
J'aurais aimé ça, c'est un rêve de
gosse,
gars.
Là, oui.
Ben oui, c'est sûr, t'as l'air d'aimer ça, là.
Oui.
T'as-tu des anecdotes qui sont comme un peu cocasses ou drôles, qui est arrivé soit en lab, soit en classe, ou avec certains étudiants, ou...
Écoute, ça va peut-être avoir l'air bizarre, là, mais il en est arrivé une il y a même pas 2 semaines. Il y a eu un spectacle ici à la Malbaie, il n'y a pas si longtemps, de Rock Voisine.
Oui.
Rock Voisine, c'est un chanteur plus de mon époque, là, moins de la vôtre. Là. Mais Rock Voisine, il y a une chanson super classique qui s'appelle « Hélène ». Et puis, même vous autres, vous risquez de l'avoir déjà entendu, cette chanson-là, ou en tout cas, vos parents l'ont déjà mis. C'est quand même vraiment, vraiment classique dans la culture québécoise, cette chanson-là. Puis... dans les problèmes de charge et de décharge de condensateurs, là, vous vous demandez où je m'en vais avec ça, là.
Oui.
Mais il y a les formules mathématiques. Quand on veut réussir à aller isoler certains paramètres à l'intérieur pour résoudre un problème, il faut qu'on utilise une fonction mathématique qui est le logarithme népérien. L'abréviation, c'est LN. Donc, Hélène. Et là, moi, ce que j'ai fait avec les étudiants, c'est que je leur ai dit, tu vois, allez au spectacle, tout ça. Puis il y avait certaines personnes qui étaient allées, tu sais. Puis là, je dis, ben là, on va chanter Hélène pendant que j'étais au tableau en train de faire mes équations, qu'il y avait Hélène dedans. Là, j'étais en train d'utiliser ça au tableau. Puis j'avais mis sur mon téléphone la chanson Hélène de Rock Voisine. Puis quand je me suis tourné de bord, tous les étudiants avaient allumé leur flashlight sur leur téléphone. Puis là, ils faisaient bouger leur téléphone comme dans un spectacle de Taylor Swift ou je sais pas trop quoi. J'ai tellement ri là, quand je me suis reviré de bord. C'était de toute beauté. Ça fait que ça, c'est une anecdote.
Ça doit être un moment magique, ça.
Je peux même faire une autre anecdote de mon début d'enseignement. Ça faisait même pas un mois que j'étais ici. Moi, ma fête, c'est le 24 septembre. Okay? Puis là, les étudiants, à ma première année, avaient su que ma fête, c'est le 24 septembre. Mais écoutez, le 24 septembre, c'est tôt là, dans une session. Là, on est rendu au 9 octobre aujourd'hui. Puis là, il y avait des étudiants. Puis à ce moment-là, j'avais 23 ans. T'sais, j'allais avoir 24 ans. J'avais pas une grosse différence avec mes étudiants. Puis il y avait des gars un petit peu plus cool, un petit peu plus, relax, là, t'sais, moins stressé de vouloir rentrer en médecine absolument. Il avait amené un six-pack de bière en classe. Puis pendant que j'étais au tableau, j'entends clung sur la table. Je me tourne de bord, j'entends psh. Là, il y a un des étudiants qui était venu me porter une bière sur la table en avant, il me l'avait débouché. Puis il y avait cinq autres gars qui avaient chacun une bière à leur place. Puis tout le monde s'est pris comme une gorgée de bière. Puis là, ben moi, là, j'étais vraiment mal, ce qui fait que je m'étais tassé le long du mur pour pas que personne me voie par la fenêtre de la porte. Mais j'ai pris ma gorgée de bière avec eux, tu sais, puis là, ben tout le monde riait, mais ça avait pas de sens.
Mais non, c'est sûr, c'est mal.
Ça avait aucun sens, ce qui fait que là, j'ai dit, là, il faut que ça reste ici, tu sais. Mais c'est pas resté là. Là, ma coordonnatrice de département, à ce moment-là, Geneviève Lorrain, qui était encore ici, professeure de biologie, elle l'a su, puis là, elle me rencontrait à son bureau pour me dire que ça se faisait pas, puis écoute, j'étais un jeune, là. J'arrivais dans l'enseignement, mais tu sais, je pouvais pas non plus pas un petit peu embarquer dans la game des gars, dans le sens que tu veux aussi être cool un peu avec tes étudiants, pas en faisant n'importe quoi, mais je veux dire, aussi, tu veux pas être non plus quelqu'un de zéro accessible puis qui pense pas que t'es un humain, que t'es juste un prof, tu sais. Ce qui fait que ça a comme été un petit piège qui m'ont tendu, disons, là. C'est que j'ai eu un petit avertissement, mais c'est un autre moment cocasse, là, parce que c'était ça ta question. Je pense que ça, c'est quand même assez cocasse.
Ouais. Effectivement. Moi, c'était concentration science. Ça passe tout le temps des affaires en science. Parce qu'en fait, à Baie-Saint-Paul, là, au secondaire, là, les classes de science sont comme reliées par le laboratoire en arrière. Mm-hmm. Fait qu'en fait, t'as comme trois classes.
Oui.
Puis les trois classes ont une porte dans le fond de la classe qui se rend dans leur salle de stockage, tu sais, où ils gardent toutes les affaires, des expériences. Ouais. Puis c'est... tu sais, c'est une pièce. Fait que les trois portes se rendent dans la même pièce. Puis les profs de sciences, on avait deux techniciens.
Mm-hmm.
Puis comme trois, quatre profs de sciences qui étaient hyper connectés ensemble. Puis à chaque fois, ils se faisaient des jokes entre eux autres. Tu sais, mettons, dans mon cours de physique, il y a un autre prof de sciences qui rentre dans notre classe pendant que mon prof, il parle. Puis le gars, il passe au milieu, il fait toute la pièce, la porte est au fond.
Oui.
Il fait toute la salle. Rendu en avant, il fait « Faites comme si j'étais pas là! » Puis il fait « Je veux pas vous déranger!
Ben » oui.
Puis il rentre en arrière. Il y a comme un gros silence. Puis genre, mon prof a continué comme si de rien n'était. Puis il y avait une fenêtre dans cette classe-là, fait que des fois, c'était le technicien qui se mettait à face en fenêtre.
Ah ouais, c'est
en niaiserie. À Noël, à l'Halloween, on a le défilé des costumes au secondaire. Fait que, tu sais, ils se déguisent tout le temps dans un concept ensemble. Mm-hmm. Puis là, ils viennent, puis là, ils le font. Tu sais, c'est tout le temps comme connecté, on dirait. Genre,
c'est le fun pour vous autres de voir ça aussi, que l'équipe qui s'occupe de vous autres, il y a une belle complicité. C'est bien mieux de voir ça que si l'équipe, ils se parlent pas, puis que chacun fait juste sa petite affaire, tu sais.
Ah, c'est clair.
Ce qui fait que, ben ça veut dire qu'ils s'entendent bien. Quand les gens se font des farces puis qu'ils se niaisent, c'est parce que d'habitude, ils s'entendent bien.
C'est comme en secondaire 5, il y avait ma classe de physique qu'on était comme 20, 22.
Mm-hmm.
Puis il y avait l'autre classe de physique, ceux qui étaient en sciences techniques, en maths, les maths ST.
Il y a les maths ST, puis les SN, oui.
Ouais, ben le groupe de maths ST, quand il était en physique, il était 6.
OK.
Puis là, pendant qu'eux étaient en physique, nous, on était en français. Puis notre classe, on était comme... On n'était pas beaucoup, mais tu sais, on était une dizaine, 10-15. Puis eux autres étaient 6. Puis des fois, notre prof, il venait dans... Le prof de physique venait dans la classe de français... Puis là, ma prof de français, elle les vannait. C'était comme, on se vannait que toi, t'es payé à rien faire avec 6 étudiants, pis tout, pis nanana. Puis à un moment donné, il est venu dans notre classe pendant qu'on était en test de lecture. Puis notre prof était parti pour je ne sais quelle raison. Je pense qu'il était allé faire des photocopies ou quoi, tu sais, okay. 5 minutes. Puis notre prof de physique est venu comme pile dans cette 5 minutes-là qu'elle n'était pas là. Puis il nous a tout dit, genre, venez dans ma classe. Finalement, on l'a pas fait, mais ça aurait été vraiment drôle, genre, que la prof revienne, qu'on soit juste plus là.
Ah, mais moi, parlant de ça, là, ay, ça, c'était drôle. On avait fait une blague à notre prof de sciences, là. Nous aussi, on était comme vraiment pas beaucoup dans les sciences fortes à notre école. Dans le cours, on était genre 10 aussi. Mm-hmm. Puis, il y a un jour, parce que dans le fond, notre prof, quand il pleuvait dehors ou quand il faisait beau, il y avait une petite chanson avec un petit toutou. Puis là, un matin, on s'est dit, on va aller se cacher, tu sais, qui boit, que personne ne s'est présenté au cours. Là, on est tous allés se cacher dans la classe en arrière, puis il est arrivé au cours, il dit, ben, il y a personne. Fait que là, on a tout commencé.
Vous l'entendiez, là.
Ouais. Fait que là, on a tout commencé à rire, puis on est arrivé, puis on a dit, c'était une blague. Ah, oh, c'était bon, ça. Oui.
Ah, mamie, genre, il y a un couple dans notre classe. Ben, le prof de physique, il est en couple avec la prof de musique.
Oui, fait que, OK.
Puis elle est en haut, puis la prof de musique est en bas, tu sais. Puis dans le COVID, tu sais, on est en musique, mais tu sais, c'était dans la place où au secondaire, on était en alternance. C'était dans ce temps-là, c'était quand j'étais en secondaire 3. Mm-hmm. Puis nous, on avait la classe d'or. Puis la classe d'or, hors musique, là, les deux ensemble. Puis pendant que, mettons, les ors étaient en or, ben nous, on était en musique. C'était comme en même temps.
Oui.
Puis nous, on était dans la classe de musique, puis les autres secondaires 3 étaient genre chez eux. Fait que là, notre prof, elle leur parle, puis tout, puis, tu sais, genre, elle leur dit, allez pratiquer, puis c'est tout, tu sais, vous pouvez partir, mais, tu sais, je compte sur vous autres. Puis elle avait raccroché. Puis là, elle nous laisse, comme, pratiquer, puis tout. Genre, elle va, genre, je sais plus, aux toilettes, ou, tu sais, elle s'en va. Puis son chum appelle, mais comme sur le gros tennis, en avant, sur l'ordi. Puis là, on avait leur fille dans notre classe.
Fait que, elle t'allait répondre.
On était 6, OK, dans la classe. Puis, on s'est toutes tournées vers elle. Puis on lui a dit, tu vas répondre. Puis elle comme, pourquoi moi? Je suis comme, t'es sa fille, c'est son ordi. T'as le droit, tu vas répondre. Elle est allée. Puis là, il nous parle un peu, tu sais. Puis comme, mais là, il a sa grosse face sur le tennis.
C'est sûr.
Puis notre prof, elle revient. Puis elle voit genre la face de son chum sur le tennis.
Elle a donné puis elle, genre, qu'est-ce qui se passait?
Elle est rentrée dans la classe, c'est comme, mais qu'est-ce que tu fais là? Genre, qu'est-ce qui se passe?
C'est
on ça. Part tout à rire, toute la gang. Finalement, c'était une niaiserie, comme d'habitude. Mais, tu sais, c'était tellement drôle quand elle est rentrée, genre, la grosse face, genre,
c'est
full en gros écran.
C'est
c'était
sûr.
Malade.
Ben, tu vois, c'est des moments cocasses, ouais. Ça, qui font que vous en souvenez aussi de ces choses-là. Des fois, peut-être même un petit peu plus que la matière qui a été vue en classe. Mais en tout cas, c'est des souvenirs qui vont vous faire sourire longtemps.
Oui, ça reste, là, c'est sûr. Ils ont tous signé dans mon album de finissant, d'ailleurs.
Ah, bon. C'est bon signe, ça.
Ouais. Il y en a un, il m'a écrit « Oublie pas que tu m'as laissé les droits d'auteur pour ton projet d'impression 3D que tu as fait en secondaire 3. » J'ai dit « Oui, je t'ai laissé. Ouais, » il m'a écrit ça dans mon album. J'étais genre « J'oublierai pas. » Il m'en a fait une en plus. J'avais dessiné une coccinelle à la main, puisque on faisait un jeu de solitaire, là,
okay.
En bois. J'étais en secondaire 5. Pourquoi j'ai dit secondaire 3? On a fait un... C'est ça, c'était dans le laboratoire technique, là, puis on faisait des travaux avec le bois, des fois. Mm-hmm. Puis on a fait un jeu de solitaire avec un panneau là, par-dessus.
OK.
Puis il fallait faire les petites billes, puis il fallait faire les trous, fallait vraiment tout faire. Puis sur le dessus, il fallait le décorer. Le dessus, puis genre en dedans, si on voulait. Puis, ils ont dit, pour tenir, genre, de quoi, je sais plus, ben vous pouvez mettre un ornement 3D.
OK. Puis, toi, t'avais décidé faire... d'imprimer une coccinelle.
Ouais, ben genre, fallait faire un trou dedans, puis il fallait le fraiser déjà dans l'application pour que la vis, ça rentre, mais qu'elle pète pas notre modèle, tu sais.
Oui,
fallait
oui,
déjà
oui,
faire
oui.
Le trou de la vis avec en forme le fraisage.
Oui.
Tu sais, genre... Puis, dans notre modèle, dans ce qu'on faisait.
Mm-hmm.
Puis, moi, j'avais trouvé une technique... En fouillant sur l'application pour le 3D, j'avais trouvé une technique, c'était de prendre le... Il y avait un stylo. Puis là, j'ai fait « Ah, oh, qu'est-ce que c'est? » Fait que j'ai cliqué dessus. Puis en fait, c'est que tu dessinais ce que tu voulais. Après ça, tu décidais de l'épaisseur et tout. Et là, je me suis dit, moi, avec mes grands talents de dessin, toi, tu peux savoir que je suis vraiment pourrie.
Ben non, t'es bonne!
Tu sais, comme j'ai dessiné une coccinelle, je me suis dit, c'est quand même accessible. Puis je l'avais faite. Puis là, je m'étais dit, comment je vais faire les picots? Puis ça a été leur questionnement aussi quand je leur ai remis le truc. Ils ont dit « Comment t'as fait les picots? » Puis en fait, j'ai juste effacé mon dessin. Mais juste en trou, tu sais.
OK, en, oui, c'était des j'ai trous, il n'y avait pas de remplissage.
J'ai fait le remplissage. Puis après ça, j'ai pris les faces, puis j'ai juste effacé.
OK.
Aux places que je voulais qu'il y ait des trous. Fait que ça a fait mes trous automatiquement. Puis après ça, j'ai envoyé ça, genre. Puis mon prof de... le technicien.
Oui.
En lab, il a dit, il y a eu un gros coup de cœur sur ma coccinelle. Fait qu'il m'a demandé, genre, je peux-tu la garder pour un exemple ou quoi? Puis il m'en a refait une, genre.
Okay.
Il m'en a refait imprimer une, puis il me l'a redonnée. Il a dit, tiens.
C'est vraiment cool ce qu'on peut faire avec l'impression 3D.
Oui,
il y en a qui font
autre,
des choses hallucinantes. Ouais.
Ça aussi, c'est un autre...
C'est un autre domaine.
On peut aller loin longtemps avec ça. Là.
Oui, vraiment.
Ouais, c'est vraiment cool.
Bon, merci d'être venu pour vrai. C'est vraiment apprécié.
Plaisir,
merci d'avoir accepté l'invitation.
Là, il faut convenir de quelque chose, par exemple. Faut pas que vous lâchiez éducation spécialisée pour venir en physique, en sciences de nature. Là. Si vous êtes en éducation spécialisée et que vous sentez que vous êtes à la bonne place, faut quand même continuer, même si
sûr.
Je vous ai vraiment donné le goût de venir faire de la physique.
Oui, c'est sûr. On va s'inscrire à vos cours de physique.
Ah
là.
Parfait, je vais vous prendre. Ça m'a fait plaisir, les filles, d'être avec vous autres aujourd'hui.